Ben dis donc, c'était un super temps de louange. C'était vraiment, vraiment riche. Beaucoup de paroles données, beaucoup de paroles qui m'ont encouragé, qui encouragent l'Église. Et ça, c'est super. Alors, on a eu notre première rencontre de jeûne et prière. On en a parlé ce matin. C'était lundi soir. Et depuis, toute la semaine, j'ai été travailler parce que j'ai ressenti ce soir-là cette parole de Jésus qui a résonné dans ma tête. Qui dit à Philippe dans la Bible, mais je l'ai reçu pour moi, « Il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne me connais pas. » Est-ce possible de venir à l'Église depuis des années, d'écouter des enseignements depuis des semaines, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et ne pas connaître vraiment Jésus? Et cette parole, je partageais lundi soir dans le regard de Jésus, ce n'était pas une parole d'accusation, une parole de jugement, une parole de reproche, mais c'était plus une invitation à mieux le connaître. Pierre, je veux que tu passes du temps avec moi. Je veux que tu apprennes à mieux me connaître. Ce qui était plutôt une bonne chose, rassurante, et dans le thème après tout, hein, mieux te connaître. Mais bon, voilà, cette phrase est restée quelques jours comme pour me dire, Pierre, tu passes peut-être à côté de quelque chose d'encore meilleur, quelque chose de merveilleux. On a fait une semaine de jeûne, plusieurs se sont privés, et j'avais envie de vous parler d'un burger, un hamburger. Des amis à moi m'ont invité à ce qu'on a un petit restaurant. Enfin, c'était un food truck. On appelait ça un food truck. Donc, vous savez, c'est les camions ambulants. Et puis, maintenant, ils ont ouvert un restaurant sur Vendargues. Ça s'appelle Le Duke. Et ils font des hamburgers. Mais alors, mes amis, j'en ai jamais mangé de tel. Le pain, il le fait préparer par un boulanger du quartier. La viande, il va la chercher chez le boucher. C'est pas le petit steak plat de McDo. C'est vraiment le steak. Et il y en a un particulièrement que j'affectionne beaucoup. C'est le Canadian Burger. Avec son sirop d'érable et ses poivrons marinés, je vous garantis, vraiment excellent. Vraiment excellent. Alors, je vous en parle. Vous l'imaginez, j'aurais pu vous montrer une photo, mais je ne l'ai pas prise, j'aurais bien aimé. Mais sincèrement, tant que vous ne l'aurez pas goûté, tant que vous n'aurez pas fait l'expérience de ce hamburger, vous ne saurez pas vraiment de quoi il en retourne vraiment. C'est une chose d'en parler, c'est de lire les choses à son sujet, c'en est une autre d'y avoir goûté. Vraiment. Quand nous nous réunissons pour l'adorer, avons-nous pleinement conscience de qui il est? La Bible dit que Dieu cherche un peuple d'adorateurs, un peuple qui le connaît et qui l'adore en esprit et en vérité. Je vais vous inviter à lire un passage que sans doute beaucoup connaissent bien. Dans l'évangile de Jean, alors je n'ai pas fait de PowerPoint aujourd'hui, donc merci de sortir vos Bibles. On va lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, les versets 1 à 26. Et puis ensuite, on regardera ensemble qu'est-ce que ce passage a à nous dire pour nous ce matin. Voilà, j'ai fait quelques observations. Donc Jean, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 26. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait un puits, le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à moi à boire alors que je suis une samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. » D'où es-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Voilà, plusieurs choses m'ont parlé en lisant ce texte et j'avais envie de vous faire part de ce qui m'a touché ce matin. La première chose, c'est que Jésus est à l'initiative. Jésus est à l'initiative dans la rencontre avec cette femme samaritaine. Le contexte socio-culturel de l'époque aurait dû empêcher cette femme de rencontrer Jésus. Les Juifs de l'époque évitaient tout contact avec les Samaritains. Ils préféraient faire un détour en passant le long du Jourdain plutôt que de passer en Samarie, parce qu'il y avait une hostilité profonde entre ces deux peuples du temps de Jésus. Alors pour comprendre, les Samaritains sont en partie des descendants des colons babyloniens que le roi d'Assyrie avait établis sur le territoire où avaient été déportés les Israélites. Et les Hébreux et les Babyloniens se sont rassemblés, ont eu des enfants, et ils ont mélangé leurs races. Et après le retour de l'exil, cette population mixte a offert aux Juifs sa collaboration pour rebâtir Jérusalem. Mais ils ont été méprisés, ça s'est mal passé, et de là est né ce profond ressentiment. Voilà. Les Samaritains n'avaient gardé de la Bible hébraïque que les cinq premiers livres. Mais ils avaient une foi messianique qui était intense. Donc il y avait un profond ressentiment entre le peuple juif et les Samaritains. Pourtant, Jésus décide d'y passer et de s'arrêter dans la ville de Sichar. Le texte nous dit qu'il fallait qu'il traverse la Samarie. Il est environ midi, il fait chaud, très chaud. Jésus a soif et demande à boire à cette femme qui vient. Et habituellement, les femmes venaient puiser de l'eau le soir, quand il fait plus frais. Pourtant, cette femme vient en pleine chaleur. Sans doute, on peut supposer, pour éviter le regard des autres. Parce qu'on connaît son histoire, on l'a lu tout à l'heure. Et Jésus est là, et il entame la conversation. Je l'ai dit au début, Dieu cherche un peuple d'adorateurs. Depuis le commencement, Dieu veut que nous demeurions dans sa présence, que nous soyons avec lui. Mais l'homme s'est détourné de lui, et depuis l'homme a une conception très vague de qui est Dieu, souvent fausse, souvent erronée, souvent tronquée, souvent il le rejette même, souvent même il le réfute. Pourtant Dieu est bien réel, et il continue de rassembler un peuple. Et c'est lui qui est à l'initiative. Nous ne serions pas là, pour la plupart, si ce n'est tous, s'il n'avait pas été à l'initiative de notre rencontre avec lui. Vous ne seriez pas là s'il n'avait pas été à l'initiative de votre rencontre avec lui. Dans sa conversation avec la Samaritaine, Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Il fait abstraction de ce qui aurait dû les empêcher de parler ensemble. Il est juif, elle est samaritaine, c'est une femme. Et surtout, il est le don de Dieu donné aux hommes pour leur permettre de revenir à Dieu, de redécouvrir qui il est vraiment. Il est le chemin pour y parvenir. Il est le plan divin. Et au travers de cette rencontre, où Dieu est à l'initiative, cette femme va rencontrer Christ. Ce que j'avais déjà envie de dire pour commencer, c'est que Jésus ne cherche pas une certaine catégorie de personnes. Il fait abstraction des querelles que peuvent avoir un peuple avec un autre. Il n'y a rien qui puisse te disqualifier de le rencontrer. Cette femme évitait le regard des autres parce qu'elle avait honte de sa situation. Peut-être as-tu honte aujourd'hui de ta situation, mais Jésus veut venir à ta rencontre. Il faut que tu te laisses interpeller par lui et accepter de commencer à dialoguer avec lui. C'est capital. Et il faut aussi que nous saisissions cela quand on veut témoigner de l'amour de Jésus autour de nous. Il ne cherche pas une certaine catégorie de personnes, mais il est venu pour tous les hommes. Jésus est souvent allé partager la bonne nouvelle de l'Évangile vers des personnes vers qui nous ne serions probablement, naturellement pas allés. Il est allé vers les gens de mauvaise vie, vers les prostituées, vers les pauvres, les affligés, les possédés. Et il a même choisi pour compagnons des personnes au départ peu recommandables pour certaines. J'ai bien aimé ce verset que tu as rappelé ce matin, David, que Dieu aime utiliser les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et c'est vraiment ça. On a notre formation académie en ce moment et la thématique qu'on suit les mardis soirs, c'est sur comment lever des leaders. Et donc on nous enseigne qu'il ne faut pas regarder à l'apparence, mais que dans chacun des cœurs, il y a un leader potentiel. Et ils nous ont donné un exemple qui m'a fait sourire, parce que ça me touche, c'est la famille, de William Booth, le fondateur de l'Ami du Salut. Les gens ont ri au nez de son, lorsque les gens ont ri au nez de son projet de réévangéliser la Grande-Bretagne, en lui demandant où il trouverait suffisamment de leaders, il a répondu « Nous les trouverons dans les maisons closes et les bars. Des hommes qui ont senti le feu seront les meilleurs hommes pour en libérer d'autres, et nous ne manquerons jamais de trouver les bons. » Voilà. J'ai trouvé ça, ce clin d'œil défiant. Et donc, fidèle à sa parole, il a donné la direction de sa plus grande banque alimentaire à un bastonneur connu nommé Peter Monk. Deux semaines après sa conversion, il a donné à Elijah Cadman, un ancien ramoneur ivrogne et lutteur, une position de leadership senior dans l'armée du salut, etc., etc. Et on voit l'impact que ça a eu. Donc Dieu ne cherche pas une certaine catégorie de personnes. Il est venu pour tous les hommes. Ensuite, dans ce passage, Jésus utilise une image matérielle pour décrire une réalité spirituelle. Il dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ça m'a fait beaucoup réfléchir, cette parole de Jésus. Au travers de cette image, Jésus explique qu'il peut donner quelque chose qui va assouvir un besoin dans nos vies pour l'éternité. Et même plus que cette chose qu'il va donner va déborder dans nos vies. Quel est donc ce besoin que cette eau que Jésus donne peut assouvir pour l'éternité? C'est la question que je me suis posée. Un peu plus loin, dans l'évangile, toujours l'évangile de Jean, pendant la fête des huttes, on voit que Jésus va s'écrier « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Quel est donc ce besoin que cette eau que Jésus donne peut assouvir pour l'éternité? Je me suis posé cette question. Quel est donc ce besoin? Et en priant, Dieu m'a parlé, m'a donné cette réponse. Le connaître lui. L'homme, en s'éloignant de son Créateur, a oublié pourquoi il est sur la terre. Quel est le sens de son existence? Quel est le but de sa vie? Et le besoin qu'il a au plus profond de son être, c'est de le connaître, lui. De connaître d'où il vient, de connaître celui qui l'a créé, de connaître celui qui l'a façonné. Et l'eau, c'est l'esprit de vérité qui nous ouvre les yeux sur la réalité du don de Dieu, sur Jésus-Christ. J'ai lu un article dans un magazine sur Internet, un magazine scientifique, Science et Avenir, sur des daltoniens. Je ne savais pas que certains daltoniens ne peuvent pas voir les couleurs comme il faut. Donc moi, je pensais que c'était juste le rouge et le vert qu'ils inversaient, mais des fois, c'est plus grave, a priori, il voit que des nuances de gris, il voit pas les couleurs. Et il y avait le témoignage d'un papa qui voyait les dessins de ses enfants, mais qui était incapable de voir les couleurs des dessins de ses enfants. Et pourtant, il les voyait changer de crayon, mais il voyait que des nuances de gris. Et il y a une société américaine de peinture qui a fait des recherches et qui ont inventé des lunettes qui, a priori, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais permettent à ces personnes-là de distinguer, de voir des couleurs, de voir quelque chose de différent. Et ils font essayer ces lunettes à ces personnes-là, et c'est filmé, il y a une petite vidéo, et c'est impressionnant de voir leur réaction. Ils ne voyaient pas, ils mettent ces lunettes, et d'un coup, ils voient les couleurs. Et ils regardent les dessins de ces enfants, et ça prend une toute autre dimension. Une toute autre dimension. C'est pareil. On est loin de Dieu, on s'est éloigné, on ne le voit pas. Jésus vient, l'Esprit vient, et il nous ouvre les yeux. Comme s'il mettait des lunettes. Et là, on peut voir. On peut voir distinctement. Jésus vient satisfaire le besoin de tout être humain de rencontrer son Créateur. Il est le chemin pour y parvenir. Il n'y en a aucun autre. Nous devons venir à lui et boire à la source qui donne la vie, et l'Esprit de Dieu a été envoyé pour nous aider à cela. La Samaritaine était dans la présence même de Jésus. Il était en face d'elle, en chair et en os. À la fin du texte, nous voyons même qu'il se révèle à elle comme étant le Messie, le Sauveur qu'elle attendait. Et quand on lit la suite du texte, on voit ensuite qu'elle va partir témoigner, qu'elle va aller raconter ce qu'elle a vu. Aujourd'hui, Jésus, il n'est plus là physiquement, en chair et en os, je veux dire. Mais avec nous, son esprit a été envoyé pour nous aider à le connaître. Dans Jean 16, versets 7 à 15, il nous est dit « Il est avantageux, je vous l'ai lu ce matin, c'est vrai, pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit, cette eau qui vient nous ouvrir les yeux sur la personne de Jésus, qui vient nous révéler qui il est. Et il a tellement, tellement à nous dire. Souvent, je me contente de ce que j'ai appris, de ce que je sais durant ces années, et je me repose sur ça. Mais je sentais le Seigneur me travailler et me dire, mais il y a bien plus. Il faut que tu désires me connaître. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider. Il va te révéler des mystères, il va te révéler des choses cachées, il va te révéler les choses du royaume, il va te montrer qui est vraiment Dieu, qui est vraiment Jésus. C'est un encouragement pour nous à accueillir l'action du Saint-Esprit dans nos vies, à la désirer ardemment. C'est marrant parce que Jésus donc lui dit ça, et cette femme, du coup, elle comprend pas trop l'image, et elle demande à boire de cette eau pour ne plus venir à pouvoir puiser dans ce puits. Et Jésus lui répond par une question, enfin pas une question, mais une requête assez directe, je trouve. Il lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici. » Il connaît la situation de cette femme. Il la connaît. Et il lui dit ça. Il est plutôt direct, je trouve. Plutôt provocateur. Mais cette question très directe va éveiller la conscience de cette femme, qui va lui permettre d'amorcer une démarche de repentance et qui va lui permettre d'avoir accès à cette source dont Jésus parle. Et ça va l'amener au pied de Jésus, au pied du Christ rédempteur. La femme est interpellée par Jésus, qui a su décrire sa vie. Elle voit en lui un prophète et lui demande alors où il faut adorer Dieu. En effet, les Samaritains adoraient Dieu sur la montagne, le mont Garizim, alors que les Juifs adoraient Dieu au temple de Jérusalem. Il y avait deux lieux bien distincts. Et Jésus apporte des éléments nouveaux qui abolissent les anciennes manières de faire. Là aussi, c'est assez impressionnant. Il ne s'agit plus d'adorer Dieu en un lieu particulier, ni en suivant un certain protocole, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, mais de l'adorer en esprit et en vérité. Au lieu que cela soit sur cette montagne ou à Jérusalem, ça se passe en esprit et en vérité. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Seigneur ? En esprit signifie que notre adoration est inspirée. Elle est portée par l'esprit et qu'elle se produit principalement comme un événement spirituel intérieur. Je répète, en esprit signifie que notre adoration est inspirée, portée par l'esprit, et qu'elle se produit principalement comme un événement spirituel intérieur. Il est question du cœur, cette partie de nous qui se connecte à Dieu, qui, comme nous l'a rappelé David la semaine dernière, est comme un réservoir de l'esprit de Dieu, l'action du Saint-Esprit dans nos vies. En vérité, signifie que notre adoration est façonnée par notre connaissance juste de Dieu. Elle est une réponse à nos visions justes de qui est Jésus, de qui est Dieu. Et c'est pour ça qu'un jour, Jésus a rappelé aux pharisiens cette prophétie d'Ésaïe. Et il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rend un culte. » Quand le cœur est loin de Dieu, l'adoration est vaine, vide, inexistante. Ce ne sont que des mots, que des gestes, que des attitudes, mais qui n'ont pas de valeur. Notre Dieu recherche des vrais adorateurs. Depuis le commencement, je l'ai dit, il nous a créés pour sa gloire, pour que nous puissions jouir de sa présence, pour que nous puissions avoir une relation avec lui, être avec lui. Il travaille à rassembler son peuple et il est à l'initiative. Il vient à notre rencontre et veut nous révéler qui il est vraiment. Jésus nous a donné une mission, mais cette mission, elle a un terme. Elle va s'arrêter, alors que l'adoration, c'est pour l'éternité. On vient d'achever une semaine de jeûne et prière sur le thème « Mieux te connaître » et cela va façonner notre manière de louer et d'adorer Dieu. Et ce que j'aimerais, ce que j'avais à cœur de vous dire ce matin, c'est de ne pas nous contenter de ce que nous connaissons déjà sur Jésus, sur Dieu. Nous devons le rencontrer, passer du temps avec lui. Continuer ce que nous avons fait ensemble cette semaine. Et le Saint-Esprit est là pour nous y aider. La Bible dit qu'il est Esprit de vérité qui est éternellement avec nous, qui est en nous. On peut voir Jésus parce qu'il vit et parce que nous vivons. L'Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il glorifiera Jésus parce qu'il prendra de ce qui est à lui et nous l'annoncera. L'Esprit est cette source d'eau vive qui jaillit dans le cœur de celles et ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur et cette source jaillira jusque dans l'éternité. C'est le plan de Dieu pour bâtir son Église, une Église qui recherche sans cesse à connaître Dieu, à plonger toujours plus profond dans les splendeurs de sa majesté. Une Église où Jésus est glorifié, où Jésus prend toute la place. C'est ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Dans la semaine, j'ai eu une vision. Ça m'arrive rarement. J'ai prié pour l'Église. Et j'ai vu... Donc ça m'a touché ce qu'a partagé Céline ce matin, et puis Véronique aussi. C'était une vision assez effrayante. Je voyais l'Église encerclée de loups menaçants et prêts à bondir. J'étais effrayé. Vraiment. Et soudain, plusieurs se sont mis à attaquer et à courir en direction de l'église avec dans le regard la volonté féroce de détruire et de ravager. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, et ce que j'ai vu quand je me suis tourné vers l'église, c'est qu'elle était formée d'un mur immense en pierre, haut et large, très haut et très large. Et les loups ne voyaient pas ce mur. Et ils couraient, et ils se rapprochaient, et ils venaient se fracasser les uns après les autres contre ce mur. Puis je me suis souvenu de la parole de Jésus à Pierre dans l'évangile de Matthieu, où il demande à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprend la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Dieu le Père a révélé à Pierre qui était Jésus, en vérité. Et c'est sur cette fondation-là que Jésus bâtit son Église. Une Église qui connaît Dieu et qui a une relation avec lui est une Église que l'ennemi ne pourra jamais atteindre. Une Église qui connaît Dieu, pour qui il est vraiment, dans toute sa plénitude, est une Église que l'ennemi ne pourra jamais atteindre. J'ai vraiment à cœur de vous encourager ce matin. Ce qu'on a fait cette semaine, ça m'a béni, et je pense que ça a béni beaucoup. Quand on voit le nombre de paroles qui ont été données ce matin, c'est Dieu parle, mais c'est vraiment un encouragement à persévérer, à ne pas nous arrêter là. Alors je ne vous appelle pas à continuer de jeûner, pas forcément, mais à prendre du temps. À prendre du temps pour apprendre à mieux le connaître. Il a été à l'initiative, c'est lui qui est venu vous chercher là où vous étiez. Et il est venu vous chercher parce qu'il veut avoir une relation avec nous, avec chacun d'entre vous, avec moi, avec chacun d'entre vous. Il n'est pas juste venu pour vous sauver, certes il l'a fait, mais il veut avoir une relation, il cherche un peuple d'adorateurs. Il cherche un peuple qui le connaît, qui l'adore en esprit et en vérité, qui laisse l'esprit agir dans leur vie. Amen. Voilà, c'était un encouragement que je voulais vous donner ce matin.
Merci Pierre. Waouh. Quel culte super. Je vous invite à vous lever. Et je souhaite proposer aux personnes qui ont vraiment été touchées cette semaine ou aujourd'hui par les paroles qui ont été données, notamment celle de Richard, par rapport à la joie, ou celle de Véronique, il y en a eu d'autres aussi, de pouvoir vous avancer, et on priera avec vous. Et on terminera comme ça. Voilà. Seigneur, merci pour ta grâce, merci parce que tu es présent. Merci pour tous ces encouragements, merci parce que nous te connaissons mieux après cette semaine, après cette journée, et nous avons encore beaucoup à apprendre de toi, Jésus. Merci parce que c'est toi qui as fait le premier pas et tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à nous et tu es mort sur la croix. Et tu as fait ce pas de géant pour que nous puissions revivre avec toi. Nous sommes morts avec toi et nous vivons avec toi. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui habite en nous, en chacun de nous. Seigneur, nous te bénissons pour cette semaine et que chacun reparte avec ta parole, Seigneur, dans le cœur. En ton nom, Jésus. Amen. Bon dimanche à tous.